Alors on ouvre la parole, a priori j'ai entendu dire, vous étiez dans une série dans l'évangile de Matthieu, et on est dans Matthieu 13 à partir du verset 1er. Matthieu 13 à partir du verset 1er jusqu'au verset 23. Et la question qu'on va se poser, je ne sais pas si vous, les plus anciens, se souviennent de Michel Chevalet, ce journaliste scientifique sur TF1 qui disait tout le temps « Comment ça marche ?» Boris y connaît Michel Chevalet. C'est un grand fan d'ailleurs, abonné à sa chaîne YouTube. Et c'est ce qu'on va se poser par rapport, la question qu'on va se poser par rapport au royaume. Le royaume de Dieu, comment ça marche ? Et ce qu'on a envie de se dire au départ, c'est un peu, on a envie de dire au Seigneur, pourquoi ça ne marche pas mieux ? Pourquoi ça ne marche pas mieux ? Il peut nous arriver d'être découragé quand on voit l'avancée limitée du royaume, le sentiment que ça ne grandit pas en fait, pas autant qu'on aimerait, en nous et autour de nous. Alors en nous, peut-être que en regardant sur les dernières années de votre vie, vous êtes peut-être découragé ce matin, parce que vous voyez peu de progrès dans la foi, les mêmes combats, les mêmes chutes, les mêmes découragements, l'impression d'être dans la machine à laver du péché. Parfois, vous êtes en mode survie parce que vous êtes dans un moment de vie où on est en mode survie quand on a des enfants en bas âge, par exemple. On fait comme on peut. Peut-être vous êtes parfois découragé par votre mollesse spirituelle ou par la place des écrans dans vos vies. Ah, il y a une parole concurrente. On va rester focus. Et peut-être qu'autour de nous aussi, on est découragé. On a parlé de tous ces efforts que fait le BTM par rapport à la parole, que font nos églises. On témoigne, on organise des événements, des livres qui sont écrits pour ça. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Parfois, rien. On est découragé, on peut l'être, devant l'incrédulité qui nous entoure. On a prié pour ça, on a invité un collègue, on a eu une conversation et en fait, il n'est pas venu à notre invitation. Et pire que ça, on peut aussi être découragé parce qu'on ne comprend pas forcément la stratégie de Dieu toujours pour faire grandir son royaume. On ne comprend pas toujours comment lui, il fonctionne. Alors il y a un risque là. Il y a un risque d'être découragé sur soi-même, sur la mission de l'Église. Il y a un risque de devenir incrédule. Dire finalement ça ne marche pas cette affaire-là. On m'a toujours dit que ça marchait, mais finalement, ça ne marche pas. Et puis, il y a le risque d'essayer d'utiliser des techniques humaines pour que ça marche quand même. De la manipulation, des trucs qui marchent, mais qui sont un peu loin de l'Évangile. Alors, le plus sûr, c'est de s'adresser au roi de ce royaume, de l'écouter, de dire qu'est-ce que lui a à nous dire sur sa stratégie. Il est le mieux placé pour nous renseigner. Alors dans cette série, dans l'évangile de Matthieu, vous avez vu le ministère de Jésus qui commence avec un ministère de puissance dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et vous avez vu que les réponses, en fait, même à Jésus lui-même, sont nuancées. J'ai écouté quelques extraits de la prédique de Nicolas il y a 15 jours. Et on voit que certains s'approchent, croient et sont sauvés. Puis il y en a qui refusent, il y en a qui s'endurcissent. Il y en a qui disent non au roi du royaume, et en particulier les autorités religieuses. Alors Jésus va expliquer à ses disciples, va nous expliquer ce matin comment ça fonctionne. Et on va lire ensemble le passage de Matthieu, chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et pourquoi je leur parle en parabole ? Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Jusque-là, la lecture dans la parole de Dieu, je vous invite à prier ensemble. Pour que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas insensibles ce matin, pour que nos oreilles soient ouvertes et nos yeux également, nous avons besoin de ton Saint-Esprit et nous te demandons son assistance pour que ta bonne parole arrive sur un terrain préparé et bien disposé, pour que nous recevions ce que tu veux nous donner à chacun d'entre nous ce matin. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous vous souvenez de la question du titre tout à l'heure ? Le royaume de Dieu, comment ça marche ? On va voir la première réponse donnée par le roi du royaume. Sa parole opère un tri parmi les auditeurs. Voilà comment le royaume de Dieu s'étend et progresse. C'est que sa parole opère un tri parmi les auditeurs. Notre texte commence avec une foule. Regardez versets 1 et 2, qui a soif d'entendre le roi de ce royaume, qui a commencé à changer des vies, qui a eu un enseignement puissant, qui a changé des cœurs, qui a guéri et fait des miracles. Et Jésus sort de la maison, un ministère un peu plus privé, pour un ministère un peu plus public, et il y a tellement de monde, verset 2, qui doit s'asseoir sur une barque. C'est ce qu'on aimerait quand on fait de l'évangélisation. Il y a tellement de monde qui vient à nos rencontres qu'on est obligé de pousser les murs. Jésus commence à enseigner en parabole, verset 3. Alors, on est habitué à ça, mais peut-être à ce texte. Mais il y a des gens qui ont soif, qui veulent des choses sérieuses, de la viande, du costaud. Et Jésus vient leur raconter des petites histoires pour enfants. Mais c'est une blague ou quoi ? Effectivement, la parabole, on le voit dans la suite, c'est une petite histoire simple, mais il faut se méfier des petites histoires simples, parce qu'elles sont puissantes, parce que leur message, on le verra, est puissant et profond. L'histoire est tirée du monde agricole de l'époque. Un semeur, verset 4, sort pour semer, et vous savez qu'à l'époque, c'était à la main. On semait comme ça, largement. Et on ne sait pas si notre semeur n'est pas très doué ou quoi, mais le grain tombe un peu partout. On sait, d'après la suite du texte que, bien sûr, c'est une image de la parole. Verset 19, la parole du royaume arrive sur différents terrains, sur le chemin, les oiseaux la mangent, verset 4. Sur le sol pierreux, ça lève vite, mais le soleil dessèche tout, versets 5 et 6. Parmi les épines ou les ronces montent en même temps et étouffent tout. Moi, je suis un piètre jardinier, je vous le confesse. Notre jardin en est la preuve, notre absence de jardin en est la preuve. Mais là, les ronces, j'ai essayé de mener le combat quand même. Je me suis dit, bon, voilà, je vais mener le combat contre les ronces, et en fait, c'est hyper décourageant. On enlève tout, et puis quelques semaines après, c'est comme si on n'était pas intervenu. C'est ce qui se passe là. Ça étouffe tout, et il n'y a pas de fruits. Alors, ce n'est pas brillant pour l'instant. On va peut-être changer de semeur, je ne sais pas. Mais quand même, ce qu'on attendait depuis le début de cette histoire, admettons qu'on ne la connaisse pas vraiment, on attendait depuis le début qu'il y ait du fruit. Et finalement, ça arrive. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Génial. Vous donnez un flyer, il y a 100 personnes qui viennent à la réunion d'évangélisation. C'est un bon rendement, ça. En général, c'est plutôt 4000 et 3 personnes qui viennent. Le résultat est là. Et alors, on est surpris parce que Jésus dit, verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je vous propose ce petit exercice. Faites comme moi, faites comme ça. Est-ce que tout le monde a des oreilles? Normalement, oui. Mais Jésus met l'accent sur l'écoute. Et on est d'autant plus surpris que cette histoire est assez simple, en fait. Quand on est appelé à écouter sérieusement, c'est que c'est un peu compliqué. Il faut se concentrer, il faut aller plus loin. On a envie de dire, mais on a compris ton histoire, et alors? Mais les disciples qui commencent à connaître un peu leur maître s'approchent. Regardez verset 10. On est dans le ministère public, là, puis les disciples s'approchent. On est dans le cercle rapproché et ils posent des questions. Et vous savez que c'est la meilleure chose à faire dans une classe. Un enfant qui pose une question, c'est qu'il a envie de savoir. Il a envie d'en savoir plus. Et c'est ce que disent les disciples. Pourquoi leur parles-tu en parabole, franchement? T'as pas de meilleure stratégie? Pourquoi tu parles en parabole? Et là, à partir de là, on comprend plus trop. Parce que nous, on pensait que la parabole était une histoire un peu simple pour que ce soit accessible à tous. Et Jésus va dire les choses de manière très différente. Regardez sa réponse, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Comme un tri qui s'opère par cette histoire qui est racontée. À certains est donné le privilège de comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. C'est un mystère qui leur est révélé. Et c'est vous qui en êtes les bénéficiaires de Jésus, vous mes disciples, vous qui êtes mes proches, vous qui vous êtes approchés pour en savoir plus. À vous, il vous a été donné de le connaître. Mais à d'autres, cela n'est pas été donné. Ils comprennent rien, ils ne reçoivent rien. Et peut-être vous le savez, mais le passif dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle souvent un passif divin. Ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est que ça fait partie du plan de Dieu, que ce soit donné à certains et pas à d'autres. La carte au trésor est donnée à certains et pas à d'autres. Et alors, on est encore plus perplexe, on l'était déjà pas mal, avec le verset 12. Jésus précise, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors imaginez la situation suivante, vous avez deux personnes en face de vous, une personne très riche, qui passe la moitié de l'année à Dubaï, bon, et une très pauvre. Vous donnez 10 000 euros, vous avez 10 000 euros à donner, et vous choisissez de donner ce chèque de 10 000 euros à la personne très riche, et pas aux pauvres. Et en plus, au pauvre, vous lui enlevez sa veste et vous la donnez aux riches. Les amis, il faut lire la Bible dans son contexte. C'est capital de comprendre le contexte de cette parole choquante de Jésus. Ce n'est pas un principe économique qu'il est en train de donner. Il n'est pas en train de dire « arrêtez, moins de blabla et plus de cœur ». Il ne parle pas de ça. Il parle de l'écoute, de notre manière d'écouter sérieusement. Dans ce contexte du verset 12, celui qui a, c'est celui qui s'approche, celui qui, comme les disciples, veut savoir, veut connaître, veut être enrichi, veut connaître et aimer le roi. À celui qui a cette attitude de cœur, on donnera. Il sera comblé, comblé, comblé de s'approcher du roi. Mais à celui qui ne veut pas écouter. Il n'a pas parce qu'il ne veut pas, à l'image des autorités religieuses, au chapitre 11, qui disent de Jésus, il vient de Satan, c'est un imposteur, on ne veut pas recevoir. Eh bien, cette attitude de cœur, vous recevrez encore moins. Et même ce que vous pensez avoir, la certitude d'être proche de Dieu vous sera enlevée. Parce que vous ne vous attachez pas au roi Jésus. En fait, Jésus est en train d'utiliser la parabole pour faire le tri, pour être un révélateur. Alors là, je parle aux anciens dans cette pièce. Souvenez-vous de la photographie à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, mais l'argentique. Il fallait un révélateur, un produit chimique, pour qu'on voit ce qu'il y a sur la photo. C'est une feuille blanche et puis il fallait un révélateur pour montrer effectivement ce qu'il y avait sur la photo. Parfois c'était « Ah, c'est une belle photo » et puis parfois c'était la déception, on ne pouvait pas le refaire. La parabole, c'est comme ce révélateur qui révèle l'état des cœurs et qui opère ce tri. Et c'est ce que Jésus confirme dans la suite. Il fait ce parallèle ou cette opposition à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, avec d'un côté ceux qui ne voient pas, parce qu'ils ne veulent pas voir, et de l'autre ceux qui voient, parce qu'ils s'approchent du roi pour voir. D'abord, ceux qui ne veulent pas, à partir du verset 13, Jésus dit « Pourquoi je leur parle en parabole ? Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Et ils s'appuient sur le prophète Ésaïe. Vous voyez Ésaïe qui est mentionné au verset 14 pour dire en fait, mon expérience de fils de Dieu, c'est la même expérience qu'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Une parole qui est une des plus citées dans le Nouveau Testament, où Dieu envoie son prophète en mission. Vous vous souvenez peut-être Ésaïe 6, l'apparition du Dieu vivant, du Dieu saint dans le temple. Une apparition impressionnante. Ésaïe qui est terrifié, terrassé. Et le Seigneur qui le relève en purifiant son cœur avec un charbon qui vient de l'autel et qui l'envoie. Et il lui dit, c'est génial, je t'envoie en mission. Ça va être génial, ça ne va pas marcher. Plus tu vas parler, plus ça va s'endurcir. Ça va te rejeter. Waouh! En fait, l'expérience du prophète, c'est la même expérience que Jésus. C'est une parole qui fait le tri. Ceux qui ne veulent pas recevoir ne reçoivent rien. Vous vous souvenez de la première béatitude que vous avez peut-être vue ? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi c'est la clé ? Parce que quand on est pauvre et quand on se sait pauvre, on arrive devant Dieu les mains ouvertes. Donne-moi, Seigneur. J'ai rien. J'ai rien. Je dépends pour tout de toi. Mais ce n'est pas le cas ni du peuple à l'époque d'Ésaïe, ni d'un certain nombre de personnes à l'époque de Jésus. Parce que, au fond, pourquoi est-ce que leurs oreilles ne fonctionnent pas ? Pourquoi leurs yeux ne fonctionnent pas ? Regardez verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Cœur endurci, endurci contre l'œuvre de Dieu. Je me débrouille tout seul. Je n'ai pas besoin de Dieu ni de Jésus. Et regardez de quoi ils se privent, ceux qui sont dans cette posture spirituelle. C'est la fin du verset 15. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ça, c'est le projet de Jésus. Ça, c'est l'objectif de la parole qui est semée largement. C'est que des hommes et des femmes vivent tout ce cheminement-là, voient Jésus venir de la part de Dieu, entendent son message et le cœur de son message. Repentez-vous. Ils comprennent leur situation devant Dieu, qu'ils sont perdus, qu'ils ne peuvent rien faire pour s'approcher du Dieu Saint, mais que Jésus est venu pour les sauver, pour qu'ils soient pardonnés par sa mort et sa résurrection. Et donc, en comprenant ça, ils se convertissent, ils se repentent, ils se tournent vers Jésus et soient sauvés. C'est de tout cela qu'on se prive quand on n'écoute pas le Seigneur Jésus, quand on ferme le cœur à sa parole. Ce n'est pas par pure tradition ou parce qu'il faut bien occuper le temps qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on l'écoute pour y obéir. C'est parce que c'est vital, parce que c'est éternellement vital, que c'est le seul moyen pour connaître notre état, pour connaître notre Dieu et pour être sauvé par lui. Mais ce n'est pas une fatalité d'être dans ce camp-là. Ce n'est pas du tout une fatalité. Il y en a qui s'approchent des disciples et ceux qui sont autour. Et à eux, regardez ce que dit Jésus, verset 16. « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je ne savais pas que des yeux pouvaient être heureux et des oreilles également. Mais c'est une manière de dire quel privilège de voir Jésus, de l'entendre et de comprendre son message. Il y a dans ma famille des gens qui ont des problèmes auditifs. Il y a dans notre église des personnes qui sont non-voyantes à Albi. Qu'est-ce que c'est difficile dans la vie quotidienne de ne pas voir, de ne pas entendre. Quel privilège, nous qui entendons ce matin la parole de Jésus, de voir Jésus et d'entendre Jésus nous parler. C'est un privilège d'autant plus important qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé voir ça, mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Verset 17, des prophètes qui ont annoncé Jésus, des hommes justes qui ont placé leur confiance en Dieu, ils auraient tellement aimé voir et entendre Jésus parler. Mais c'est arrivé plus tard, et c'est nous qui sommes dans ce privilège-là. La parabole est un moyen de faire le tri. Et le moyen de communication que Jésus utilise nous dit quelque chose de la nature de son royaume. Le moyen de communication qu'il utilise nous dit quelque chose de la nature de son royaume. Ça met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Et on l'a entendu. Et Boris l'a parfaitement rappelé ce matin dans la première partie. C'est Dieu qui est souverain. On peut tourner le problème dans tous les sens. C'est Dieu qui fait croître. C'est lui le maître de la moisson. C'est lui qui sauve par son Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître de nouveau. C'est son salut et son pardon. Et d'ailleurs, si on racontait notre histoire les uns et les autres, on dirait tous d'une certaine manière, avec des mots différents et un timing différent, « Dieu m'a sauvé. J'y suis pour rien. » Et en même temps, côte à côte, cette parabole, cet enseignement de Jésus nous parle aussi de notre responsabilité. Nous avons des oreilles, nous avons des yeux, nous avons un cœur. Nous pouvons les ouvrir ou les fermer. C'est notre responsabilité. Alors la question qui m'est posée à ce stade de notre texte ce matin, c'est comment est-ce que j'écoute Jésus ? Il y a des millions de personnes qui aimerait connaître la vie, la vraie, qui aimerait connaître le pardon véritable, qui n'ont même pas conscience de Jésus. Et nous connaissons Jésus, et nous avons sa parole. Et nous sommes, et je suis, si souvent négligent. Le Seigneur attend de moi une écoute qui persévère. Encore, je veux comprendre, Seigneur. Je veux comprendre. Comme cet enfant qui pose des questions à sa maîtresse à l'école. Je veux comprendre, Seigneur. Une écoute qui a des attentes. Seigneur, je veux que ce moment passé avec toi ce matin, je veux sortir différent. Plus enraciné. Plus d'amour pour toi, pour mes frères et sœurs, pour le monde. Et une écoute active. J'écoute vraiment. Alors, je ne sais pas les autres maris dans la salle où ils en sont au niveau de l'écoute de leur épouse. Mais je pense que ma situation peut ressembler à certaines situations existantes où on dit « Oui, j'ai compris. J'ai écouté. » Et puis, au moins, il y a une personne qui s'y reconnaît. Et en fait, on n'a pas vraiment écouté. On n'en tient pas vraiment compte. On oublie le rendez-vous et on met un rendez-vous au même moment que... En fait, c'est un peu la parabole de ce qu'on fait avec le Seigneur Jésus, une écoute distraite. Une écoute parfois pas vraiment pour écouter, mais pour dire, voilà, j'ai passé mon temps personnel avec Dieu. Non, le Seigneur attend de nous une écoute active, parce que ce n'est pas simplement la parole, c'est la parole d'un Sauveur qui nous aime, qui veut nous faire grandir à sa ressemblance, nous faire progresser. À Albi, il y a des frères qui ont du mal avec la lecture ou qui ont pas de temps parce qu'ils ont une vie très chargée. Ils ont commencé à utiliser Bible Audio. On a écouté un peu de Bible Audio tout à l'heure devant. C'est génial. En fait, peu importe la manière dont vous faites, peu importe la section que vous lisez, peu importe, c'est écouter le roi chaque jour. Dire, moi, je veux m'approcher. Je ne veux pas rester dans la foule qui ne comprend rien à cette petite histoire. Je veux m'approcher et je veux écouter ta parole. Et je vois dans mes frères des fruits extraordinaires. Ils écoutent la parole en allant au boulot une demi-heure. Et ça porte du fruit. C'est sûr. Si ce matin, vous n'êtes pas au clair par rapport à Jésus, s'il n'est pas encore votre sauveur personnel, entendez que, en s'approchant de lui, en écoutant sa parole, vous pouvez marcher sur ce chemin qu'il a décrit, de voir qui il est, de comprendre vos situations, de pouvoir vous repentir pour avoir la vie éternelle. C'est une promesse sûre d'un roi qui nous aime, dont on va se souvenir de son amour dans cette période de Pâques. Deuxième volet, à la réponse de Jésus, comment ça marche? Après, sa parole opère un tri parmi les auditeurs. Sa parole révèle l'état des cœurs. On était pas mal aux oreilles, aux yeux, et le Seigneur va aller encore plus profondément dans les mêmes lignes. Mais la question, c'est l'état de nos cœurs. Verset 18, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et c'est là que Jésus, alors j'ai anticipé tout à l'heure, mais dit verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, c'est cette parole qui est la semence. C'est le roi qui parle, c'est ce qu'on fait quand on ouvre l'évangile, quand on ouvre la Bible, c'est la parole du roi. Parole du roi qui s'adresse à son peuple et qui s'adresse à ceux qui ne sont pas encore ses sujets. Cette parole qui a commencé publiquement dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Reconnaissez la royauté du roi et soumettez-vous joyeusement à Jésus. » Et on va voir dans la suite, dans cette partie applicative, on va se poser la question de l'état de notre cœur, deux manières de l'appliquer. La première, c'est, on va lire ces mots en se plaçant du point de vue du récepteur. Le roi nous parle. Quel est l'état de notre cœur? Et puis, on va réfléchir aussi à l'impact de la parole alors que nous sommes des transmetteurs de sa parole. Quand nous sommes disciples du roi, notre vocation, vous verrez sûrement à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est de proclamer l'évangile jusqu'au bout de la terre. Et c'est ces deux applications sur lesquelles nous voulons réfléchir maintenant, en balayant ces différents cœurs. Cœur dur, d'abord, verset 19. Le Seigneur descend dans le détail pour nous faire bouger, nous faire grandir. Il ne pose pas cela comme un constat qui nous disqualifie. En disant tes cœurs durs ce matin, terminé, disqualifié. Il nous dit ça pour qu'on change, pour qu'on bouge, pour qu'on devienne cœur bien disposé. Alors cœur dur, verset 19, Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Cœur dur, c'est personne sur laquelle la parole n'a aucun impact. Prédication de l'évangile, c'est pas pour moi. Ça peut pas changer grand-chose. Franchement, Jésus peut rien pour moi. C'était il y a 2000 ans, franchement. Là, on est en 2026. Et donc, comme il y a cette dureté, non, le diable enlève la parole semée. On entend ça le dimanche matin d'une oreille, on sort, et puis ça sort par une autre oreille. Est-ce que c'est mon cas ce matin ? Cœur superficiel à partir du verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Réception avec joie. On sait que c'est la parole de vie. On croit à l'évangile. On croit à la grâce. Mais quand ça devient difficile, à cause de la parole, précise Jésus, on lâche. On lâche. Je me souviendrai toujours du témoignage d'un ami de l'église libre de Toulouse où j'étais pasteur. Un ami togolais qui a raconté que le jour de sa conversion, il y avait une sorte de conseil de famille et que sa mère s'est levée en lui disant « Tu n'es plus mon fils ». Et il a dû partir. Ça, c'est la réalité pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde. À cause de la parole, ils perdent tout. Ça ne prend pas forcément cette forme. Pour nous, aujourd'hui, c'est une forme beaucoup plus subtile où on est un peu sur la marge. On est un peu gêné d'être chrétien dans un dîner entre amis, dans la cour, avec nos potes à la fac. C'est un peu difficile de porter ce drapeau-là. Et on peut avoir tendance à lâcher l'affaire. Un peu comme un jeune qui participe à un camp chrétien, il revient chaud bouillant, et puis il revient dans la réalité du collège, du lycée, de la fac, avec d'autres valeurs, avec d'autres priorités. Et on lui dit « Arrête avec ta religion, franchement, c'était bien pour l'été, tu t'es fait plaisir, maintenant vis ta vraie vie, vis ta vie véritable, fais la fête. » Et puis si l'autre persévère, on dit « Tiens, voilà le curé. » J'ai entendu ça, peut-être vous l'avez vécu. Ça peut être un rejet beaucoup plus subtil sur des choix éthiques qu'on fait et qui nous mettent à la marge, qui nous mettent de côté. Quoi, tu couches pas en dehors du mariage ? Mais franchement, t'es un martien. Tout le monde le fait. Et à cause de la parole, forme de rejet, pour laquelle on peut avoir le risque de lâcher l'affaire. C'est-à-dire, ça me coûte trop cher de suivre Jésus. Il y a trop d'implications. Et le risque, c'est de lâcher complètement. Et puis, il y a les cœurs qu'on pourrait appeler cœurs distraits. Et on a vraiment l'impression que c'est écrit pour la France en 2026. C'est pour ça que c'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Aujourd'hui, regardez le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. La distraction. On est dans une société de la distraction, où il y a mille autres choses qui étouffent la voix de Jésus. Blaise Pascal, philosophe chrétien du XVIIe, dans Les Pensées, livre magnifique, attaque à plusieurs reprises les divertissements. Et à l'époque de Pascal, il n'y avait pas d'écran, donc c'était genre les cartes, genre les jeux de société. Mais là, il s'en donnerait à cœur joie, Blaise. Parce que le nombre de choses qui étouffent la parole dans nos vies, c'est impressionnant. Et je pense que pour l'Occident, c'est la stratégie numéro un du diable. D'étouffer la parole au milieu de tout un tas d'informations et d'images, un flot continu qui étouffe la parole, la seule importante en fait, la parole de Jésus. C'est la seule qui tient la route. C'est la seule qui change nos vies. C'est la seule qui nous fait grandir à l'image de Jésus. C'est pas Twitter, enfin X maintenant, c'est pas une image d'Instagram, c'est pas le scrolling infini qui nous apporte quoi que ce soit, en fait. Et pourtant, c'est ça qui étouffe la parole. Vous savez, parfois, comme évangélique, on est vachement à l'affût d'un certain nombre de choses sur les questions éthiques, on tient le front, on est cohérent, on est solide, mais sur la question des écrans, on est d'une naïveté. On est d'une légèreté. Et moi le premier. Mais les amis, ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas pour rien que la parabole se termine sur cet accent-là. Il ne faut pas l'oublier. Verset 23. C'est l'objectif de Jésus depuis le départ. C'est l'objectif de Jésus continu jusqu'à son retour, que le fruit soit porté. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. On a parfois tendance à l'oublier parce qu'il y a les trois sols où ça ne marche pas. Mais c'est là la note finale. C'est là la note la plus importante. C'est ça l'objectif de toute la parabole. C'est l'objectif de toute la parole. C'est que la parole porte du fruit, les amis. C'est que ça marche. Ça fonctionne. Quand on écoute Jésus, sérieusement. Il y a un ami qui m'a dit cette semaine, Adam, le premier Adam, c'était un piètre jardinier. À cause de la chute. Travail, des ronces, des épines, c'est un peu moi dans mon jardin, quoi. Mais le second Adam, Jésus, c'est un jardinier extraordinaire. Parce que quand sa parole est semée, ça porte du fruit de manière impressionnante. 1%, pour 60, pour 30, c'est un gain extraordinaire. Ce matin, les amis, nous pouvons devenir un cœur bien disposé. Peut-être vous êtes, nous nous sommes, ou vous vous êtes reconnus dans certains sols durs, ayant peur de la persécution, distrait par mille autres choses. C'est le moment où Jésus nous parle pour nous ramener et nous dire « tu peux être un cœur fertile ». Le Seigneur Jésus ne nous parle jamais pour nous disqualifier, pour nous condamner, pour nous dire « t'es dans une boîte, c'est terminé pour toi ». Jamais. Il nous parle pour qu'on vienne comme les disciples à ses pieds, qu'on l'écoute. Que si on n'est pas chrétien, ce matin on découvre son sauveur, celui qui nous fait passer de la mort à la vie, parce qu'il est mort à notre place et qu'il est ressuscité. Et si nous sommes chrétiens, fatigués ou découragés, nous puissions revenir et recevoir sa parole pour lui ressembler de plus en plus, porter du fruit et grandir. Ça marche, les amis. Ça va marcher pour l'éternité. Tous les posts Instagram, tous les tweets, ça va être jeté dans la poubelle pour l'éternité. Soyez-en sûrs. Tous les matchs de foot, de rugby, du tournoi de cinéma, tout ça. Mais la parole de Jésus et le fruit de la parole de Jésus dans nos cœurs et dans les cœurs de ceux qui nous entourent, entoure ça une portée éternelle. Et c'est là que on termine avec cette dimension de semer. Nous ne sommes pas simplement les récepteurs de la parole, nous sommes aussi ceux qui l'annoncent. Et il nous faut être encouragés par cette histoire. Oui, on ne change pas les cœurs, on ne transforme pas les vies. Oui, on ne sait pas quel sera le gain. C'est le Seigneur qui est souverain et nous garde à notre place. Mais nous pouvons être sûrs que si nous semons, il y aura du fruit. Il y aura du fruit. Alors on pourrait dire à Dieu, mais peut-être qu'il y a une meilleure stratégie que ta parole. Peut-être qu'il y a de meilleurs systèmes pour faire grandir ton royaume. C'est quand même un peu compliqué de nos jours avec la place. Mais c'est sa stratégie. Il a décidé d'étendre son royaume quand sa parole est proclamée, quand l'évangile est proclamé, que des gens y répondent par la repentance et la foi. Et si le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé à partir de rien, celui qui a ouvert la mer en deux d'un seul mot, nous dit ça, ça marche. ça marche. Ça marche dans notre vie d'église. Ça marche dans notre témoignage personnel. Ça marche dans les projets d'implantation que nous portons. Ça marche parce que le Seigneur est le maître de la moisson. Alors soyons-en sûrs, les amis. Quand la parole de Dieu est accueillie dans les cœurs, son royaume grandit dans le monde. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui réoriente nos cœurs, qui réoriente notre boussole, qui nous aide à voir à l'essentiel et non à tout ce qui est secondaire ou non essentiel. Et tu connais nos cœurs ce matin, dans quel état ils sont. Et je veux te prier que chacun d'entre nous, nous ne sortions pas de la même manière que nous sommes rentrés ce matin. Que nous ayons ce désir profond de nous mettre à tes pieds, de t'écouter quotidiennement. Que tu nous donnes des cœurs réceptifs, des cœurs qui sont désireux de te connaître et de grandir dans l'amour pour toi et l'amour pour les autres. Et je te prie que tu nous encourages aussi dans notre manière d'annoncer l'évangile autour de nous. Que dès cette semaine, tu nous donnes des occasions, d'une manière ou d'une autre, d'annoncer ta parole dans cette confiance profonde que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Nous regardons à toi, nous te faisons confiance, nous te prions de nous aider à être des ouvriers confiants et fidèles dans ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen.